Radio Okapi. Grande interview.
Merci de nous recevoir chez vous. Grande interview reçoit pour vous aujourd'hui le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Louboyang Kachama. Comme vous le savez, c'est depuis le 6 mai 2021 que l'état de siège a été instauré dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, deux provinces en proie à l'insécurité due à l'activisme des groupes armés. Et avec le gouverneur de l'Ituri, nous ferons le point sur l'état de la province 4 mois après l'instauration de l'état de siège. Jean-Noël Mokondo et Jean Wonda sont à la mise en onde. Présentation Kéline Kouté. Bienvenue à tous dans votre magazine. Monsieur le gouverneur Johnny Kachama, bonjour.
Bonjour, bonjour madame. Je suis le lieutenant général Louboyang Kachama.
Merci. Monsieur le gouverneur, 4 mois après l'instauration de l'état de siège dans la province de l'Ituri, quel bilan pouvez-vous dresser des opérations militaires contre les groupes armés actifs dans cette province?
Oui, madame, le bilan, c'est un bilan à mi-parcours. Nous sommes arrivés ici le 11 mai et nous étions fixés des objectifs, notamment la sécurisation de la ville de Bounia, l'ouverture de la RN 27 et la RN 4 et finalement l'ouverture de Iga Barrière Mungwalu. Et là, je peux vous rassurer que nous sommes arrivés. Et il s'est ajouté, parce qu'avant notre arrivée ici, il s'est ajouté un problème à Boga et Chabi, où il y avait les Banyabwisha qui s'étaient un peu affrontés avec les populations locales. Et donc, nous avons aussi, par ailleurs, mené des opérations au niveau de Boga et de Chabi pour sécuriser ces localités. Et par ailleurs, nous sommes allés un peu au-delà pour chasser les ADF qui étaient à côté de Chabi. C'est ainsi que vous avez pu apprendre que nous avions récupéré des familles qui étaient gardées par des ADF. Voilà.
Parlons de ce bilan à mi-parcours, monsieur le gouverneur. Combien de localités ont été récupérées des mains des groupes armés? Combien des rebelles ont été capturés? Combien des groupes armés se sont rendus? Ce sont des questions que la population de l'Ituri pose.
Madame, vous savez que, par exemple, en ce qui concerne la RN 27, nous avions tous ces Codeco-là qui étaient à Fataki, qui étaient dans les environs, qui étaient aussi à Djougou, qui étaient toutes RN 7. Donc, cela, nous avons pu les chasser. Vous savez, par ailleurs aussi, que nous avions, là, c'est sur la RN 4, nous avions tout autour de cette route et les Mai Mai et les ADF. Cela aussi, nous avons pu les chasser. Ils ont été, n'est-ce pas, renvoyés vers la forêt. Je parle de Boga et de Chabi et nous avons aussi mené des opérations où ces gens ont été chassés. Alors, sur Iga Barrière et Mungwalu, vous savez que Kobu et Bambou, c'était le bastion. Et ça, ce sont les dernières opérations que nous avons menées. Nous avons récupéré donc ces bastions où il y avait leur état-major. Et peut-être, si vous voulez que je vous parle plus précisément des bilans des morts et ainsi de suite, de neutraliser, bon, je ne pense pas que ça soit utile que je parle de neutraliser ou je ne pense pas.
Et les groupes armés qui se sont rendus, monsieur le gouverneur, est-ce qu'on peut avoir une idée juste sur les nombres de ces groupes armés?
Non. Justement, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème ici à Ituri. Les groupes armés ne se sont pas rendus chez nous. Nous n'avons pas eu des rendus chez nous. Et c'est comme ça que nous lançons vraiment un vibrant appel vers les enfants d'Ituri, notamment vers les grands responsables d'ici, notamment les parlementaires et autres, de nous aider dans ce travail-là, de sensibiliser ces populations. Cela ne peut pas se faire, évidemment, ils seront peut-être sensibilisés comme on l'a fait à Kobo à Chabi par les opérations, malheureusement, où nous allons déplorer des morts.
Vous venez de dire, monsieur le gouverneur, que vous avez chassé tous les miliciens qui dérangeaient la population sur la RN27. Ils sont allés où?
Mais voilà justement, vous savez, au début, je vous ai parlé d'un bilan à mi-parcours. Et donc, vous savez, tout le monde veut s'improviser spécialiste militaire. Quand nous planifions, nous avons des étapes. C'est pourquoi je vous ai parlé de la mi-parcours. Mais après cette phase, nous allons aller dans une autre phase où nous allons pourchasser ces gens-là pour vraiment les suivre dans leur dernier retranchement, que ce soit les CODECO, que ce soit les ADF. Et donc, ces ADF-là, dont vous parlez parce que vous disiez qu'ils sont là, ils sont en train de faire, de mener des opérations contre nous. C'est vrai. C'est vrai parce que nous avons jalonné des gens de Komanda jusqu'à Mabelenge. Et en plus de ça, nous faisons des patrouilles, nous faisons des convoyages avec la MONUSCO. Mais nous ne sommes pas encore passés à la deuxième phase pour poursuivre cet ennemi-là dans la profondeur et le détruire. Et cette phase va commencer incessamment. Et c'est là où les gens ne comprennent pas. Ils pensent que l'armée... Non. Ce sont des choses qu'on planifie parce qu'il faut du matériel, il faut du personnel. Et là, je peux tomber aussi sur ce qui s'est passé sur la RN4. C'est tout simplement parce que, vous savez, nos militaires sont jalonnés. Nous avons des véhicules blindés de la MONUSCO qui sont là. Nous avons nos jeeps. Mais malheureusement, nos concitoyens, même si vous leur demandez, parce que nous avons un nombre bien fixe que nous devons convoyer. Mais malheureusement, quand nos concitoyens voient, n'est-ce pas, nos militaires, ils voient la MONUSCO et avec les blindés, ils suivent derrière. Et de sorte que la colonne devient vulnérable à un certain moment, parce qu'elle est sur des kilomètres, sur 4-5 kilomètres. De sorte que les assaillants-là peuvent, n'est-ce pas, attaquer au milieu. D'autre part, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Toutes ces localités où nous avons amené nos gens, toutes ces localités ont été désertées. Et donc, cela permet, n'est-ce pas, à cet ennemi de venir s'infiltrer nuitamment dans ces maisons abandonnées. Et le matin, il mène des opérations comme ça et il s'enfuit dans la forêt.
Mais quel mécanisme, monsieur le gouverneur, vous mettez en place pour que les localités récupérées ne retombent entre les mains des miliciens?
Non, les localités récupérées ne sont pas entre les mains des miliciens.
Oui, maintenant, puisque vous dites que lorsque vous récupérez, par exemple, des villages, ces villages restent inoccupés et ces miliciens en profitent pour venir occuper ces maisons.
Madame, c'est un grand travail de mobilisation, de sensibilisation, madame. Et ce travail-là, ce n'est pas seulement l'armée. C'est pour ça que j'ai parlé de la notabilité. J'ai parlé aussi de la société civile et des grands hommes de cette province. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, quand nous sommes arrivés ici, il y a quatre mois, de Bounia à Marabo, à Niakoundé, il n'y avait pas de population. Personne ne nous a accompagnés pour que cette population rentre. Nous avons, avec les athées militaires, nous avons sensibilisé. Oui, il y avait aussi la protection civile. Nous avons sensibilisé, nous avons donné des camions de l'armée pour aller récupérer cette population-là. Et donc, aujourd'hui, vous avez la population qui est rentrée à Marabo, qui est rentrée à Niakoundé. Mais c'est un travail de longue haleine. Même à Irumu, le premier meeting que j'ai tenu au territoire d'Irumu, ce sont des gens qu'on a amenés de commande à 10 ou 15, c'était devant 10 ou 15 personnes. Mais aujourd'hui, si vous arrivez à Irumu, vous allez trouver la population. Et ça, c'est un travail qui est fait par l'athée. Mais l'athée, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est un militaire. C'est vrai qu'il peut bien sensibiliser. Mais nous avons l'aide de tout le monde. Malheureusement, ici, bon, évidemment, je ne peux pas aussi condamner la population. Les gens ont cette propension. Dès qu'il y a eu une attaque, les gens, comme ça, ils partent dans la forêt. Mais maintenant, il faut créer, ça c'est vrai, parce que dès qu'ils sont partis, il y a quelque part, on peut dire qu'il y a une rupture de confiance. Pour maintenant recréer, il faut reconstruire cette confiance pour que cette population rentre. Et nous faisons tout. C'est une guerre qui...
Oui, mais le tout, là, c'est quoi, concrètement? Oui.
Nous jalonnons. Je prends le cas de Komanda à Luna, à Mabelenge. Nous jalonnons là-bas. Nous jalonnons. Nos hommes sont là. Nos enfants, nos militaires sont là. Alors, si la population ne rentre pas, ces maisons-là restent vides. Et si ces maisons restent vides, mais ce sont des endroits, des très bons endroits pour que cet ennemi vienne s'infiltrer. Et malheureusement, bon, c'est ce que j'étais en train de vous dire. La population, on ne peut pas la condamner aussi. Elle a été tellement traumatisée.
Il n'y a pas des militaires qui restent dans ces localités pour les protéger, pour les sécuriser?
Mais si, ils sont là, mais je dis que c'est une population traumatisée. Il faut reconstruire cette confiance. Et ce n'est pas seulement les militaires qui doivent nous aider, qui doivent faire ce travail-là. Voilà. Mais nous sommes là et nous travaillons, madame. Nous travaillons. Le premier ministre a eu l'opportunité d'aller les visiter et il a vu aussi le nombre de ceux-là qui sont tombés sur le champ d'honneur. Et je vous assure qu'il a compris le travail qui était en train d'être mené, madame.
Des sources sur place en Ituri, nous apprenons, monsieur le gouverneur, que plusieurs localités sont encore sous le commandement des miliciens, notamment ceux de Codeco, qui ont même mis en place leur administration dans quasiment les trois quarts du territoire des Djougou. La population dénonce le fait que ces miliciens sont visibles et connus des FARDC, mais malheureusement, aucune action contre ces derniers, alors qu'il y a même des positions des FARDC à côté de ces localités occupées par ces miliciens.
Madame, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons, c'est ce que les gens doivent comprendre aussi, vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons des attaques de partout? Vous savez pourquoi est-ce que ces miliciens aujourd'hui sont en train de nous attaquer ici et là? C'est parce qu'ils étaient en paix avant. Ça, c'est la situation que nous avons trouvée. Et dès le moment où nous avons commencé avec les opérations, ces miliciens ont commencé à répondre. Et je vous ai dit que nous sommes à la première phase aujourd'hui, c'est-à-dire prendre les grands centres, les grandes localités. Ils se sont un peu retirés, ils sont allés dans les forêts ou dans les environs. Et je vous ai dit que la deuxième phase, ça sera aller les suivre dans leur dernier retranchement, de sorte qu'ils soient neutralisés. Neutralisés pour ceux qui ne voudront pas nous rejoindre. Mais pour ceux-là qui voudront bien, nous allons les récupérer. Et donc, quand on vous dit qu'il y a encore des miliciens, non, ce sont des miliciens qui sont aux alentours, parce que nous sommes d'abord, là, je vous ai parlé des grands axes, je vous ai parlé des grandes localités. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, nous allons les poursuivre dans leur dernier retranchement. Et ça va arriver d'ici là.
Tout comme à Mambasa, où on signale la présence de plusieurs Maïmaï qui se sont reconstitués, on apprend que les opérations de ce côté-là n'existent pas.
Non, à Mambasa... Madame, je vous ai dit ici que ces Maïmaï, c'était des gens, ils étaient tranquilles, ils étaient, si je peux dire, entre guillemets, dans un territoire plus ou moins conquis. Mais maintenant, nous avons commencé les opérations partout. Et donc, ils se retirent aussi, ils essayent un peu de se réorganiser pour revenir. Mais ils ne vont pas revenir, madame. Ils ne vont pas revenir parce que d'ici là, je ne suis pas en train de parler de secrets militaires ici. Je crois que les spécialistes qui le savent, ils savent très bien que les opérations sont planifiées telles que je le dis.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, grande interview reçoit pour vous le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama, gouverneur de la province de l'Ituri. Monsieur le gouverneur Johnny Luboya Kashama, ça fait 100 jours que vous êtes à la tête de la province de l'Ituri. On vous reproche de vous lancer plus dans les projets de développement plutôt que dans les actions militaires, alors qu'on sait que la mission première de l'État des sièges est de mettre fin aux groupes armés. Comment vous répondez à toutes ces personnes qui pensent que vous êtes plus dans des projets de développement plutôt que dans les actions militaires pour mettre fin à l'activisme des groupes armés?
Madame, vous savez, cette guerre ici, si vous prenez 90% de notre ennemi, ce sont les populations congolaises. 90, même au-delà de 90, même au-delà. Et je vous ai dit qu'il y a eu une perte de confiance entre cette population-là à un certain moment et les dirigeants. Alors, il faut reconstruire ça. Il faut reconstruire comment? Il faut une vision globale, opérationnelle. Comment vous pouvez dire que non, comment est-ce qu'on a récupéré tous ces axes dont je suis en train de vous parler? Et cela en 3 mois? Qui l'a fait en 20 ans? Qui l'a fait dans 20 ans? Nous venons de le faire dans 3 mois, nous avons ouvert partout. Et aujourd'hui, qui a fait le travail que nous avons fait? Nous sommes en train de faire ce que vous parlez de développement. Qui l'a fait dans 3 mois? Donc aujourd'hui, nous devons aller sur tous les fronts pour montrer à notre population qu'il y a des dirigeants qui font attention à eux et il y a des dirigeants qui font aussi attention à leur sécurité, à leur bien-être et à leur sécurité. Et vous ne pouvez pas vous imaginer quel genre de travail nous sommes en train de mener.
La priorité pour la population de l'Ituri aujourd'hui, c'est la sécurité ou le développement?
La sécurité,
selon vous.
Mais venez, la sécurité, elle va arriver et elle arrivera. Ça, mettez-vous ça en tête. Elle va arriver et elle arrivera. À Bounia, quand je suis arrivé ici, il y avait une semaine avant, on se promenait avec les têtes de mort ici dans cette ville. Posez la question à cette population aujourd'hui. N'est-ce pas qu'ils vont s'enfermer dans les bars la nuit là-bas? Ils s'enferment pour, avec des volumes un peu bas et ils sont contents d'être là. Non, madame. Nous sommes en train de travailler. C'est la sécurité et nous sommes, c'est quelque chose que nous allons faire sur un temps. L'insécurité a été créée depuis 20 ans. La sécurité peut-être ne prendra pas 20 ans, peut-être elle ne prendra pas 10 ans, mais elle ne prendra pas non plus un mois ou deux mois, madame. Les Américains, enfin, je veux dire, vous avez en Afghanistan, vous connaissez le problème, vous connaissez ce qui s'est passé. Les autres sont partis pour 15 jours, 15, 20 jours. Combien de temps ils ont fait? Voulez-vous qu'on se retire aujourd'hui pour qu'on ait ce cas-là? À un certain moment, il faut quand même qu'on réfléchisse deux fois. Il faut qu'on réfléchisse deux fois. On parle, so what, après, qu'est-ce qu'il advient de ces provinces? Donc, c'est vrai que nous sommes sur le plan opérationnel, mais c'est aussi vrai que nous devons aussi aller sur le plan social, sur le plan du développement. Parce que cette population doit croire, doit reconstruire la confiance. Elle doit dire, non, voilà, ceux qui sont là ont besoin, font quelque chose pour nous. Et ceux qui sont là, ils font attention à notre sécurité. Et d'ailleurs, même si nous terminons cette guerre, est-ce que vous pouvez vous imaginer cette population traumatisée? Vous pensez que ce sont les opérations qui vont arrêter là? Il faut une autre dimension psychosociale. Et là, ça ne sera pas l'armée. Peut-être que ça sera plus, ça sera d'autres personnes, d'autres organisations qui feront ça. Il faudra la réconciliation. Le problème, il n'est pas comme ça, comme vous le voyez. Non. Il y a quelque chose de très profond ici, qui est au-delà des opérations. Au-delà des opérations. De toutes les façons, en tout état de cause, je sais que les populations ont besoin de la sécurité, mais je sais aussi que si cette population peut avoir conscience, ce n'est pas seulement la guerre, ce n'est pas seulement les opérations, ce n'est pas seulement le fusil qui va faire qu'il y ait la paix. Non, je ne pense pas.
Et à ce jour, comment est la collaboration entre l'armée et la population en Ituri?
Je peux dire que c'est vrai qu'il y avait quand même des problèmes. Nous sommes en train d'y travailler, madame. Je ne peux pas arriver ici et vous dire des histoires. On est en train d'y travailler parce que la population voit d'abord que le chef militaire qui est ici leur veut du bien. Parce que nous sommes, comme vous avez dit, nous sommes sur tout le plan. Il y a les militaires sur terrain aussi. Ils voient que ces militaires-là sont en train de se battre. Mais il y a aussi d'autres petits problèmes comme des tracasseries ici et là qu'on est en train de rapporter. Mais ce sont des choses qui vont se terminer aussi au fil du temps.
Monsieur le gouverneur Johnny Luboya Kachama, selon la société civile de l'Ituri, depuis la mise en place de la cour militaire dans cette province, on signale plusieurs abus des hommes en uniforme. La société civile parle même des arrestations arbitraires. Certaines personnes vont même jusqu'à parler d'un excès de zèle au niveau de la cour militaire dans les traitements des dossiers.
Madame, je suis avec la cour militaire chaque jour et toutes les reproches qui leur sont faites, chaque fois je les répète. Ce matin-là, j'étais encore avec eux. C'est vrai, il peut y avoir certains délais et je crois que des mesures sont en train d'être prises.
Cette cour militaire a été mise en place, monsieur le gouverneur. L'objectif, c'était d'arrêter les commanditaires des groupes armés, les juger. Quatre mois après... On a l'impression que la justice militaire en Ituri n'enquête que sur les détournements des fonds, notamment à la DGRPI, à la SONAS. Comment vous expliquez cela?
Madame, est-ce que ces militaires-là, ces officiers aujourd'hui qui remplissent la prison de Bounia, hein, vous pouvez dire seulement que c'est la DGRPI? Vous pouvez dire que ces gens que nous avons arrêtés, qui sont à Bounia aujourd'hui, qui sont dans la prison, qui sont dans nos cachots aussi, les Codeco, les ADEF, vous voulez dire que c'est toujours... Non. Je vous ai dit que, en fait, je ne voulais pas parler de ça, mais je dis toujours que nous avons des adversaires quelque part objectifs. Malgré leur bonne foi, malgré leur bonne foi, des fois, ils sont aussi obligés d'aller plus loin qu'il ne faut. Notamment à dire n'importe quoi de l'armée, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte des gens qui avaient leurs fonctions, qui avaient des avantages, et aujourd'hui, ils ont perdu tous ces avantages. Mais ça devient difficile de nous supporter. Mais ce que vous devez savoir, madame, et ce que la population congolaise doit savoir, l'armée est en train de se sacrifier énormément. Énormément. Et ça, c'est ce qui doit rester vraiment dans le plus profond. Et pour vraiment en avoir le cœur net, allez visiter nos hôpitaux. Nous ne sommes pas venus ici pour tracasser la population. Ou... Non. Ceux qui ont volé, ils ont volé. Ici, les gens, ces gens, ils se comportaient comment? Vous savez que j'avais honte la dernière fois. J'ai parlé de ce que je pouvais avoir, j'avais dans la caisse ici. Le premier ministre m'a posé la question, mais où est-ce que tu as eu cet argent? Parce que la contribution de la province dans le budget national, c'est presque rien. Les gens se sont habitués à ça, à mettre l'argent dans leur poche. Que voulez-vous que nous on fasse? Qu'on dise non, parce qu'on est des militaires, non, il faut pas, il faut les laisser comme ça. Non, je pense que c'est quand même un peu exagéré. Et nous arrêtons et les civils et les militaires. Vous savez-vous, prenez seulement les gouverneurs militaires. Vous savez-vous combien de fois j'ai été contrôlé? Je suis allé répondre partout. Je suis allé chez le commandant suprême. Redevabilité. Je suis allé au Parlement. Je suis allé chez mon chef, le chef d'état-major général. Je suis allé chez le ministre de la Défense. Le premier ministre est arrivé ici. Là, maintenant, le chargé des opérations, le chef d'état-major général chargé des opérations, l'adjoint, il est là. Toujours pour savoir ce que nous sommes en train. En 4 mois. Et ça, les gens ne voient pas. Ils voient seulement que non, nous sommes en train de les traquer. Non, nous sommes redevables. On n'est pas des petits roitelets. Que vous soyez civil, que vous soyez militaire, vous êtes redevables. Et ça, les gens doivent le comprendre. Ils peuvent crier comme ils veulent, ils sont redevables, ils devront répondre. Que ce soit eux, que ce soit nous. Mais nous, nous répondons plus que eux ne répondent. Voilà, madame.
Monsieur le gouverneur, combien de chefs miliciens ont déjà été arrêtés et déférés devant la justice?
Madame, vous voulez toujours parler des chefs miliciens, des... Non, il y a des choses, nous vous avons présenté des chefs ici, nous les avons présentés à la télévision, mais bon, les gens peuvent croire ou ne pas croire, mais ils sont là.
Vous les avez présentés, ça s'est limité à la présentation,
oui,
mais
Oui, à la RTNC. À Koboula, on en a blessé, on les a présentés. Ceux qui étaient dans des hôpitaux, on les a présentés.
Ça se limite là, la présentation, c'est quoi la suite?
Ah, vous voulez savoir c'est ce qu'on en fait? Non. Il y a, vous savez, nous, les opérations sont encore en cours. Nous avons besoin d'informations, nous avons besoin de ceci ou de cela. Des fois, bon, évidemment, nous devons tirer toutes les informations dont nous avons besoin pour continuer avec les opérations. Ce n'est pas comme chez les civils, non, malheureusement.
Avant de parler économie, une autre question par rapport à la sécurité de la population, la sécurité, la protection de la population civile. Là, je vais parler un peu des confrères journalistes. Qu'est-ce que l'administration militaire fait pour aider les femmes et les hommes des médias à faire leur travail en toute sécurité? Dernièrement, il y a eu l'assassinat d'un journaliste dans la province de l'Ituri, plusieurs autres sont menacés pendant cet état de siège. Qu'est-ce que vous faites pour protéger ces hommes et femmes des médias?
En tout cas, madame, si on vous a dit qu'ils ont été arrêtés, pas ici, en tout cas, c'est pas ici. Ni menacés, ni arrêtés. Je sais qu'il y a eu un cas à Mambasa dernièrement avec Moussa Voulis. Et je suis sûr, si vous informez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas l'armée. Malheureusement, c'était... d'autres personnes, pour le moment, je ne peux pas jeter un peu d'autres renseignements. Mais chez moi, ici, ce sont mes grands amis, enfin mes grands partenaires, nous discutons avec eux, que ce soit la société civile aussi. Même les députés avec qui, des fois, bon, on ne doit pas être des amis, hein, mais ils me disent la vérité, et voilà, et j'y réponds, si je ne peux pas. Vous savez que tout ça, c'est bon pour moi, c'est bon pour nous, tout ce qu'ils font là-bas, des critiques, et ici et là. Vous pouvez poser la question, jamais je n'ai arrêté quelqu'un pour ses opinions. Non, ça j'ai jamais fait.
Parlons économie, monsieur le gouverneur. On parle d'un réseau mafieux dans l'exploitation des mines dans la province de l'Ituri, surtout par les sujets chinois. Et ce sont les militaires FRDC et la police qui assurent leur protection, alors qu'on parle des carences des militaires au front. Et nous apprenons même que ces Chinois ne respectent pas leur cahier des charges. La population ne bénéficie même pas de cette exploitation.
Madame, vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est planifié. Quand je suis arrivé ici, il y a ce qu'on appelle effort principal. Mon effort principal, c'était Bounia, les grands axes, les grandes localités. Maintenant que j'ai fini, j'ai presque fini ce travail-là, parce que c'est un travail qui doit se mener simultanément. Et maintenant, donc, à la deuxième phase, je vais envoyer des hommes. Tout est déjà prêt. Nous avions déjà envoyé une première équipe. Nous allons encore envoyer une autre équipe. Cette fois-ci, ça sera pour nous saisir de tous ces hors-la-loi ou de tous ces militaires qui n'ont pas le droit d'être là.
La fraude douanière, monsieur le gouverneur, on en parle aussi dans votre province, la province de l'Ituri, surtout concernant les produits pétroliers. Que comptez-vous faire pour mettre fin à cette fraude qui ne permet pas à la province de profiter des recettes douanières?
Bon, j'avais déjà trouvé un système ici avec une société privée qui était en train de contrôler un peu tout le flux de pétrole et qui entrait dans la province. Et donc, même ce matin, hier encore, j'étais avec eux. Donc, nous sommes en train de tout faire pour essayer de contrôler les entrées. Vous savez, même le personnel, c'est un personnel qui a fait très longtemps dans les mêmes postes. Et donc, je pense, si on peut, n'est-ce pas, les permuter, et si on peut donner, on peut avoir un suivi très efficace. Je crois que ce sont des choses qui vont s'arrêter.
Quel message vous adressez à toute cette population de l'Ituri qui vous suit en ce moment, cette population qui a placé tout son espoir en vous voyant prendre la tête de l'Ituri pour mettre fin à l'insécurité dans cette province? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui?
Voilà, la population itourienne, elle va savoir, je suis vraiment conscient que c'est une population qui a été vraiment meurtrie. Et leurs attentes sont très grandes. Mais c'est pas quelque chose que nous pouvons résoudre comme ça en un jour, ou en un mois, en deux mois. Et donc, mon équipe et moi, nous sommes vraiment, vraiment décidés à donner à cette population-là la paix. Bien que ça fait plus de 20 ans que cela s'est instauré ici, je leur demande tout simplement d'être un tout petit peu patient et de ne pas aussi suivre, parce que vous savez, avec la démocratie, on dit n'importe quoi et on dit n'importe quoi, surtout ce qui est mauvais, on dit n'importe quoi sur l'armée. Tous nos militaires qui se sacrifient là, des fois je crois qu'il faut qu'on ait des limites. Et donc, cette population, je suis en train de tout faire, nous sommes en train de tout faire pour que, effectivement, elle retrouve la paix le plus tôt possible. Nous avons, la première phase, c'est celle-là qui était difficile. Mais la deuxième phase, je suis sûr, d'ici quelques jours, je suis sûr qu'ils vont même se rendre là, ils pourront voir que c'est palpable, parce qu'à ce moment-là, nous allons chasser, n'est-ce pas, poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier extension. Donc, elle doit avoir confiance en nous, elle doit avoir confiance en nous, comme nous avons aussi confiance en elle. C'est une population qui nous demande beaucoup, nous en sommes conscients, et nous allons aussi tout faire pour mériter cela, mériter leur confiance, et répondre à leurs attentes.
Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, lieutenant général Johnny Luboyang Kachama, je vous remercie.
Merci à vous, madame.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama. Merci à toute l'équipe des Radio Kapi qui a participé à la production de cette émission. Martial Kizabiamungu depuis Bunia. La mise en onde était assurée par Jean Wonda et Jean-Noël Mokondo. Présentation Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.